1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django, édition en direct et en public. Comme chaque semaine, de Pôle Sud, on vous invite à nous rejoindre nombreux. Ce soir, c'est 5 sujets au menu pour vous et on va débuter cette émission avec un peu d'écologie politique romande, Fabio.
Oui, on va saluer la sortie du bimestriel Moins qui vient de sortir cette fin de semaine dans les kiosques et nous en parlerons avec un des rédacteurs et responsables, Mathieu Glaire.
Nous parlons donc d'écologie politique romande. À 18h15, nous passerons à la Rose des Vents. Ce soir, ce sera avec toi, Daniel. Nous partirons une nouvelle fois direction le Burundi, découvrir la culture.
Tout à fait. Au cœur de la culture, on parlera plus particulièrement de la troupe Ngoma Yantare, une troupe de tambourinaires assez merveilleuse que j'ai découvert à Bournant le 2 avril, dans la soirée.
Dans
le gros de veau.
Et bien, on serait joué d'écouter les tambours. Et puis Daniel, deuxième sujet avec toi tout à l'heure, une nouvelle chronique d'ailleurs, Ils sont fous, ces Helvètes, c'est le titre. Ce soir, il sera consacré au topless.
Alors oui, on vous propose une nouvelle chronique un petit peu décalée, un peu décliché, pour montrer comment est-ce que certains migrants perçoivent notre société, entre étonnement, surprise. C'est un petit peu un jeu de miroir et on parlera du topless.
Ouais, et ben ça je me réjouis surtout. Fabio aussi, avec un grand sourire.
Oh, mais à la radio, il n'y a rien à voir. Hein.
Non, ah oui, c'est vrai.
On va deviner.
C'est pour ça qu'il faut être nombreux ici à Pôle Sud. Enfin, on passera à cultiver Lausanne avec toi, Pascaline. Bonsoir. Nous ouvrirons le tiroir des nouveautés avec l'association Troc.
Exactement, bonsoir Fabien. Donc l'association Troc, qui sont maintenant des habitués parmi nous et qui ce soir amènent avec eux non pas du rock, contrairement à ce que leur nom pourrait nous laisser penser, mais du rap.
Bon, eh bien on se réjouit, ce sera à 7h moins 15. Et puis, juste en fin d'émission, ce sera presque 7h moins 5, l'occasion de conclure ce mardi et de retrouver les mardis de Stéphane Venanzi, la chronique actualité culturelle dans la région lausannoise. Et par là autour, voilà, c'est le programme de ce mardi, le journal roman de l'écologie politique, la culture du Burundi, le topless des nouveautés musicales avec Troc, et les mardis de Stéphane Venanzi, c'est le programme de ce mardi 5 avril sur Radio Django. Émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django. Vivre à Lausanne.
Fabio, nous allons vernir ce mardi une nouvelle rubrique bimestrielle, donc tous les deux mois, rubrique qui est dictée par la sortie du journal roman d'écologie politique.
Objection de croissance, qui veut ainsi animer les débats politiques romans, même nationaux, sur les questions écologiques trop souvent banalisées dans les médias dominants. Moins, qui aspire à promouvoir et à diffuser les idées de la décroissance et à s'attaquer de fait à la religion de la croissance économique.
Il s'agit donc d'un journal de contestation, voire de résistance.
Oui, sans doute. Ces pages sont truffées d'exemples de pistes alternatives à la croissance et il est dès lors un lieu de réflexion, mais aussi d'action pour construire une façon de vivre ensemble plus égalitaire et solidaire. Mais il se veut en même temps un espace ouvert à des voix dissidentes, à des sujets et à des questions tabous. Il est construit donc sur des articles de fond et de réflexion ainsi que sur des témoignages de personnes sur le terrain. Chaque numéro peut compter sur la collaboration d'une équipe de rédacteurs et de rédactrices ainsi que des dessinateurs, dessinatrices entièrement bénévoles ainsi que toute une série d'autres personnes dont on parlera peut-être un petit peu plus tard.
Eh bien, évidemment. Et c'est ce qui correspond visiblement à l'éthique du journal.
Oui, journal qui est présenté logiquement sans publicité, libre de toute attache politicienne. Bref, un canard de qualité de 32 pages, ce n'est pas rien. Nous l'avons sous les yeux. Mathieu vient de nous l'amener. Il est vendu selon le principe du prix libre, tant au numéro qu'à l'abonnement, et il est également disponible en kiosque, et là, il se vend à 5 francs.
Oui, tout à fait abordable. Pour en parler ce soir, nous accueillons Mathieu Glaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Tu es un des membres fondateurs de Moins. On va commencer peut-être à parler directement au titre, on pourrait presque le dire comme ça, l'écologie politique romande. Quelques mots là-dessus, peut-être, pour nous expliquer.
Quelques mois, je ne sais pas, quelques heures pour en parler,
définir
l'écologie politique. Alors comment on pourrait essayer de dire ça sans être trop long? J'ai l'impression que quand on parle d'écologie, on parle peut-être souvent de ce qu'on pourrait appeler l'environnementaliste, c'est-à-dire de protéger les animaux, de protéger certaines plantes qui disparaissent, de protéger certaines pollutions. Et puis la réflexion qui est derrière l'écologie politique, qui naît donc surtout les années 70, est une réflexion qui cherche à aller un petit peu plus loin, de se dire que ce n'est pas par hasard que nous avons certains problèmes écologiques, certains problèmes sociaux, mais que c'est dû à un problème, disons, d'organisation sociale. Et donc, il ne suffit pas de travailler sur les symptômes, d'essayer de protéger une fleur ou de protéger un ours ou de protéger un panda, ce qui est également nécessaire, mais qu'il faut essayer de réfléchir un petit peu plus loin sur les structures sociales, politiques, économiques qui créent ce genre de problème, puisque voilà, les sociétés modernes sont un peu les premières à créer des problèmes écologiques aussi nombreux et aussi graves. Donc on ne peut pas s'empêcher d'analyser le fonctionnement social, politique d'une société et d'essayer de trouver des solutions global, politique, si on veut pouvoir protéger la nature. Donc voilà, l'écologie politique, c'est ça.
C'est une sorte d'homéopathie. On va chercher les raisons de la maladie et on...
Oui, dans ce sens-là, on pourrait dire on essaye d'aller aux sources, on essaye d'être radical au sens premier du terme, c'est-à-dire d'aller aux racines, et de ne pas se contenter effectivement de traiter les symptômes, tout à fait.
Alors, on plonge dans ce 22e numéro de Moins, qui vient de sortir, comme je le disais tout à l'heure, et que nous l'avons sous les yeux pour la première fois. Donc, tout d'abord, il faut dire qu'à l'intérieur, il y a plusieurs articles, mais il y a un dossier. À chaque numéro, il y a un dossier, et cette fois-ci, le dossier, il s'appelle « Cultivons notre avenir ». Une dizaine d'articles pour parler de l'agriculture qui est présentée comme productiviste et qui n'a pas d'égard pour la terre, les sols et l'air, ni pour celles et ceux qui la cultivent, ceux dont tu viens de nous parler un peu. Et dans ce dossier, vous amenez des réflexions, des constats et des pistes pour sortir de cette ornière productiviste.
Oui, donc d'abord peut-être effectivement, comme tu le signalais, en termes de structure de journal, pour les gens qui nous écoutent, ce qu'on essaye de faire, c'est, depuis le début, on a un peu trois genres d'articles. On s'est dit que c'était intéressant, effectivement, d'essayer de comprendre plus à fond une problématique, une thématique, et pour ça, on fait un dossier où on essaye d'aborder une thématique selon différents angles, d'approfondir. On essaie d'avoir des articles d'actualité pour parler de, entre guillemets, la même chose dont parlent les gens, les médias, les politiciens, mais de les aborder sous un autre angle. Et puis, on a des rubriques qui reviennent, voilà, des portraits, etc. Donc, dans ce numéro, effectivement, le débat est porté sur l'agriculture, puisque ça semble relativement clair pour beaucoup de gens, mais je crois pas tellement pour le système actuel, que la production de nourriture est absolument fondamentale pour n'importe quelle société humaine, et qu'il serait la moindre des choses de traiter correctement celles et ceux qui produisent notre nourriture, et puis ce qui permet la production de notre nourriture, c'est-à-dire les sols, les eaux, etc. Et il devient de plus en plus clair que l'agriculture moderne, malgré ce que pas mal de gens pensent, qu'elle permettrait de peut-être nourrir plus de monde, etc. Mais ça semble de plus en plus clair que ce n'est pas le cas, qu'elle est extrêmement destructrice des écosystèmes, des personnes, des savoir-faire, et qu'elle est absolument non durable. Donc voilà, on a essayé d'apporter une contribution à ce débat avec, d'un côté, une certaine analyse des problématiques de l'agriculture moderne, productiviste, industrielle, et de l'autre, d'essayer d'apporter certaines pistes, certaines alternatives qui sont déjà en route. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, on parle pas simplement de permaculture dans ce dossier, qui nous semble être l'une des approches de l'agriculture la plus pertinente actuellement. C'est une... Je sors autant de la bibliothèque que de la librairie, là, et je me suis aperçu qu'il y a vraiment une flopée de bouquins sur la permaculture, donc c'est vraiment quelque chose qui est à la mode. Et ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce que c'est vraiment à la mode, est-ce que c'est une mode qui va durer. Mais en tout cas, les prémices de la permaculture sont, à notre avis, extrêmement intéressantes. C'est une des manières d'appréhender la production agricole qui nous semble la plus... profonde, la plus intéressante.
Parce qu'elle ne prend pas en compte seulement justement le traitement de la terre ou d'une façon biologique, etc., mais elle pense aussi aux êtres humains, à celles et ceux qui travaillent cette terre.
Oui,
c'est
vraiment,
bien ça, hein, la permaculture vraiment, dans ce sens entier.
Voilà, elle a vraiment une approche holistique.
Ouais.
Si elle est partie vraiment de l'agriculture, on parlait au début donc d'agriculture permanente, mais maintenant on parle plus de permaculture, de culture permanente, ouais, en englobant voilà, la maison, la culture, donc vraiment une
les
forme,
rapports sociaux,
voilà,
les rapports de mm-hmm, aussi de négoce, enfin
voilà, les rapports politiques et sociaux à l'intérieur de la production, ouais, de nourriture. Donc oui, c'est vraiment une approche intéressante. C'est aussi une des très rares approches de l'agriculture, en particulier dans les approches, on peut dire, biologiques ou alternatives. Il y en a très peu qui parlent de démécanisation ou de démotorisation. Oui. C'est-à-dire que dans la plupart de l'agriculture bio aujourd'hui, on fait en gros la même chose avec un peu moins de produits chimiques, mais ça reste des salaires qui sont très bas dans l'agriculture biologique, ça reste distribué par la grande distribution, ça reste
très mécanisé
aussi, du pétrole,
hein, pas dépendant du pétrole.
Exactement. Ouais. Et la permaculture est une des rares approches qui réfléchit sur comment pourrait-on démécaniser l'agriculture, avoir une véritable agriculture qui nourrisse tout le monde sans être dépendant du pétrole.
Ce qui est intéressant de ce dossier, c'est qu'effectivement, il mêle des articles de réflexion de fond que vous menez vous-même aussi à l'intérieur de la rédaction de moi. Vous amenez des réflexions de fond d'autres personnes et aussi du travail de... Enfin, vous interviewez toi-même, tu interviews quelqu'un qui est sur le terrain, mm-hmm, puis qui vit la démécanisation. Hein.
Oui.
Donc, voilà, simplement pour dire que ce dossier, il semble assez... comment se présente là, assez complet. L'idée, c'est bien sûr de lancer le débat aussi.
Oui, tout à fait. Depuis le début, le but du journal, pour moi en tout cas, mais je crois aussi pour mes camarades, c'est pas forcément, enfin, c'est pas de dire on sait ce qu'il faut faire, si vous faites comme ça, tout ira bien. On n'est pas une sorte d'avant-garde éclairée. Il nous semble juste qu'il y a certaines questions, certaines problématiques qu'on ne se pose pas assez. Qu'il y a certaines manières d'aborder les problèmes qu'on passe sous silence, et puis que si on les met en lumière, on arrive à avoir une réflexion plus riche et plus profonde. Donc c'est un peu ça, surtout le but du journal, c'est effectivement de lancer le débat. De toute façon, le mouvement pour la décroissance reste un mouvement petit, marginal, qui n'a quasiment pas de relais politique. Donc voilà, le travail qu'on essaye de faire, c'est d'essayer d'apporter le débat sur la place publique, de dire, ben voilà, les gars, il y a des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse ensemble, il y a des questions qu'on doit se poser, et puis essayons d'apporter certaines idées. Donc on n'a ni prétention d'exhaustivité, ni de savoir ce qu'il faut faire, mais voilà, ce qu'on essaie de faire, effectivement, c'est de porter le débat sur la place publique. Et du coup, ça me permet de vous remercier de nous donner cet espace, parce que c'est justement ce qu'on essaye de faire.
Alors voilà, pour ce qui est de ce dossier... Cultivons notre avenir sur l'agriculture, notamment la démécanisation et toute une série d'autres réflexions sur la culture, même si elle se définit comme biologique, il y a encore du chemin à faire. D'autres parties du journal, qu'est-ce que tu nous conseilles de lire, Mathieu?
Excellente question.
Deuxième partie qui parle d'Ivan Illich.
Oui, alors c'est pas une deuxième partie,
non,
c'est ce qu'on peut appeler un peu les. Ça commencera à devenir un peu une rubrique, c'est-à-dire que Ivan Illich, donc pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas ou les auditrices qui ne le connaîtraient pas, c'est une personne, enfin je ne vais pas pouvoir le définir ici parce que c'est quelqu'un d'assez inclassable, oui, mais qui fait partie de cette vague de penseurs et d'activistes des années 70 qui ont commencé à critiquer le modèle occidental de développement matérialiste, productiviste, etc., etc., qui a inspiré tout plein de penseurs alternatifs et de pratiques alternatives dans l'éducation, dans la santé, etc. Et puis, donc, c'est un des sources d'inspiration du mouvement de la décroissance. Et puis, en collaboration avec Jean-Michel Coradjou, qui est l'animateur du Cercle des lecteurs d'Ivan Illich, ici à Lausanne, qui est un ami d'Ivan Illich et de personnes proches d'Ivan Illich, on a décidé d'essayer de lancer une sorte de rubrique qui serait une sorte d'Illich pour les nuls, d'essayer de, voilà, de diffuser un peu plus largement ces modes de pensée, ces analyses qui sont pas forcément faciles d'accès, qui posent des questions très intéressantes. Et donc là, c'est le deuxième article qui va dans ce sens-là, d'essayer de diffuser la pensée d'Ivan Illich.
Alors, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on peut lire dans le moins. On a le temps qui passe très rapidement. Il y a notamment chaque fois « Penser avec les grands », vous présentez une figure, des figures qui ont contribué à nourrir idées, questionnements des objecteurs de croissance. Cette semaine, cette édition s'appelle Paolo Pasolini. Il y a, je vous laisserai découvrir dans ce numéro, Faire l'amour en conscience, sous la rubrique Alternative Collective. C'est assez marrant, sous la forme d'une petite BD.
Oui, ça faisait longtemps que la rédaction de moi se demandait quand on allait enfin réussir à parler de sexe dans le journal.
Ok, avec des dessins.
Voilà, c'est fait.
Oui, c'est fait. Enfin, il y a plein d'autres articles aussi très politiques, je trouve, sur la Syrie, notamment un article que tu signes, je crois.
Non,
c'est pas toi qui signes, pardon. Article sur la Syrie qui se demande pourquoi on parle de si peu de ceux qui fonctionnent bien dans ce pays. Et puis, il y a des exemples d'anarcho-féministes au pays de Daesh. Bref, c'est extrêmement intéressant. Il y a même un article sur Radio Django, merci, parce que voilà, vous nous avez demandé aussi d'écrire quelque chose. Et sinon, quel futur, quels sont les défis de moi?
Alors pour le moment, il y a un gros défi, malheureusement, comme on peut le lire en première page sur l'édito, aussi en deuxième page, l'un des cofondateurs du journal nous a quittés il y a un mois. Notre ami Mirko Locatelli s'est suicidé. Voilà, le journal traverse une phase très difficile, très nette, de loin la plus difficile qu'il a traversée depuis le début. D'abord parce que, voilà, humainement parlant, perdre un ami de cette manière, c'est lourd. Mm-hmm. Et puis de l'autre, de manière très pragmatique, le journal est fait par une très petite équipe de volontaires depuis 3 ans et demi. Et voilà, on dit que les cimetières sont peuplés de gens irremplaçables, de manière un peu ironique, mais pour nous, c'est plutôt vrai. Voilà, c'est impossible de remplacer une personne comme ça, donc on ne sait pas trop.
Actuellement, personne extrêmement importante.
Voilà, on ne sait pas exactement comment va être le futur. On espère pouvoir continuer, mais on ne sait pas.
Vous vous posez des questions, d'ailleurs, c'est dit aussi dans le journal. Vous posez aussi les questions aux lecteurs et lectrices.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'on fait bien d'imaginer peut-être une semi-professionnalisation de quelqu'un, ou bien d'ouvrir à d'autres, à des synergies avec d'autres journaux comme Décroissance ou un autre journal belge dont je ne me rappelle plus le nom. Bien, on ne peut que souhaiter de te ou vous rencontrer lors de la prochaine, peut-être en essayant d'avoir un petit peu plus de temps pour discuter des différentes parties du journal, pour faire envie de le lire. Les points de vente.
Alors, les points de vente, moi, est disponible dans la plupart des kiosques. Enfin, une bonne partie des kiosques officiels.
Au prix de 5 francs.
Au prix de 5 francs. Oui. Et puis ensuite, il y a toute une série de lieux alternatifs à Lausanne, à Genève, enfin un peu dans toute la Suisse romande, des bibliothèques alternatives, des centres culturels. Maintenant, moi, j'aurais pas à vous dire maintenant à Lausanne dans quel endroit ils sont disponibles. L'endroit le plus simple, c'est dans les kiosques. Ou bien on peut simplement nous écrire et puis nous demander d'envoyer un...
achetez-moi.ch, c'est bien ça, hein?
info@achetez-moi.ch. Okay. Ah oui,
et puis, on peut s'inscrire sur votre site aussi, j'imagine, achetez-moi.ch,
oui,
pour s'abonner.
Tout à fait.
Et le recevoir à la maison directement.
Exactement.
Voilà qui est une excellente nouvelle. Et on rappelle que Mathieu Glaire, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler, puisque c'est la sortie aujourd'hui même de ce numéro d'avril-mai. Hein.
Oui, tout à fait.
Et puis, alors, on aura le plaisir de vous retrouver d'ici 2 mois pour l'édition de juin-juillet. Est-ce que vous avez déjà une petite trame, une petite idée de quoi il va traiter, un gros dossier?
Oui, alors normalement, comme je le disais tout à l'heure, on a pas mal de doutes actuellement. Est-ce qu'on va arriver à sortir le numéro? Qu'est-ce qui va se passer? Mais a priori, il devrait sortir un petit peu plus vite, c'est-à-dire autour du 20 mai. Oui, parce que le dossier va traiter sur le revenu, sur l'initiative, sur le revenu...
Effectivement, on vote le 5 juin dessus, hein, sauf erreur.
Voilà, comment ça s'appelle, l'initiative sur le revenu de base inconditionnel, voilà. Donc le dossier devrait traiter de ce thème-là.
On aura l'occasion donc de vous recevoir fin mai, début juin. On vous remercie beaucoup, Mathieu Glaire, vous êtes membre fondateur de ce magazine, de ce journal Moi. Merci d'être venu nous en parler ce soir sur les ondes de Radio Django. On vous rappelle encore le site htmoi.ch ou bien encore le réseau d'objectifs de croissance décroissance.ch. Merci Mathieu Glaire.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et merci, merci Fabio pour le sujet.
Radio Django, la rose des vents.
Ce soir, dans la rose des vents, nous allons parler de la culture du Burundi. Bien que le pays reste secoué par la crise politique depuis avril 2015, on a eu l'occasion d'en parler dans les précédentes émissions, l'association des Burundais du canton de Vaud aimerait rappeler que le Burundi se caractérise avant tout par son histoire et son patrimoine culturel. Daniel, qu'est-ce qui caractérise cet héritage de nos jours ?
Alors, le Burundi reste marqué par des traditions orales, des racines ancestrales et une architecture héritée de la colonisation allemande, sans oublier sa musique.
Alors, Daniel, vous faites sans doute allusion à ce fameux tambour légendaire du Burundi.
En effet, Fabien, comment évoquer la culture du Burundi sans parler de cet instrument mythique ?
Un voyage au Burundi qui vous a permis de les découvrir ?
Non, faute d'obtenir mon visa dans les temps pour le Burundi, j'ai eu un pass pour aller écouter ces tambours à Bournan, une localité du Gros de Vaud. Un événement organisé samedi 2 avril par la Boucave, l'association des Burundais du canton de Vaud, une jeune association née en mai 2015.
Et puis alors, vos impressions ?
Un moment magique. J'ai profité de cette occasion pour tendre mon micro à des Burundais sur leur culture. J'ai d'abord rencontré Venant, retraité, ancien fonctionnaire international à l'ONU, très attaché à sa culture et ses traditions. Il nous a raconté le Burundi sous l'angle de l'oralité. La tradition orale reste très ancrée dans la culture du Burundi, mais cette tradition résistera-t-elle au temps ? Avec la modernité, la culture de l'oralité pourrait bien mourir.
Vous savez, la culture au Burundi est au centre de la vie du pays. Comme dans tous les pays, la culture c'est la caractéristique principale d'un pays. Comme dans la plupart des cultures africaines, c'est une culture fondée sur la tradition orale.
Et que représente la tradition orale au XXIe siècle ?
Au XXIe siècle, je dirais que pour beaucoup, c'est un peu dépassé parce que la tradition orale a été détrônée par la culture de l'écriture. Et lorsque on ne sait pas écrire, on ne peut plus retenir grand-chose comme cela se faisait traditionnellement.
Et aujourd'hui, qui sont les principaux passeurs de cette culture orale ?
Évidemment, ce sont les vieux. Mais les vieux de mon âge, moi j'ai aujourd'hui 75 ans, la plupart sont passés par l'école. L'école a détrôné la tradition et on passe par l'écriture.
En tant qu'enfant, qu'est-ce qu'on vous a transmis justement par l'oralité ?
Par l'oralité, c'était tout ce qu'il y avait, tout ce qui existait.
Ça veut dire l'histoire du Burundi ?
L'histoire du Burundi, pas sous forme vraiment de l'histoire comme telle, mais c'est le vécu de tous les jours qu'on apprenait avec nos parents, dans les contes, dans les échanges, dans les causeries, autour du feu. Malheureusement, je crains que la culture traditionnelle, ça veut dire l'oralité, a perdu vraiment de l'influence, de son importance. Je crains qu'aujourd'hui, avec notre génération, la génération comme la mienne, ou en tout cas une génération un peu avant moi, ça sera terminé avec la tradition orale. C'est dommage. Le moderne a le dessus sur le passé, sur le traditionnel.
Et que dire des autres éléments culturels du Burundi ?
Au niveau quand même de la danse, si nous parlons de la danse, la tradition continue à s'exprimer vraiment. Vous allez le voir tout à l'heure avec les tambourinaires, avec les danseurs et les exhibitions des danseuses et danseurs burundais. C'est quelque chose de remarquable, d'extraordinaire. Là, la tradition quand même persiste, perdure un tout petit peu.
Je vais peut-être vous interrompre. On va aller voir les tambourinaires. Je pense qu'on a tous envie.
Daniel, qui sont ces tambourinaires et d'où viennent-ils ?
Les musiciens que vous venez d'entendre résident en Europe. Il s'agit de la troupe Ngoma Yantare. Ce groupe s'est formé en Allemagne et rassemble des tambourinaires et des musiciens passionnés par la musique traditionnelle du Burundi. Le fait de jouer en acoustique donne au roulement de tambour un caractère unique. C'est une musique qui fascine, qui réveille. Et le tambour est l'instrument privilégié du Burundi. Plus qu'un simple instrument de musique, le tambour revêt un caractère sacré. Entre deux morceaux, j'ai pu me glisser dans la loge des artistes, 3 minutes pour comprendre les enjeux symboliques qu'incarnent les tambours du Burundi avec...
Sébastien Tarongendera. Le tambour burundais symbolise le pouvoir. Et quand je dis le pouvoir, c'est le pouvoir politique. Parce que, effectivement, au Burundi, dans la tradition, quand on dit tel événement, c'est produit par exemple sous le règne du roi tel, eh bien le mot règne se traduit par ingoma, ce qui littéralement veut dire tambour, comme qui dirait tel événement s'est produit sous le tambour du roi tel. Donc le tambour burundais symbolise vraiment le pouvoir. Si bien que dans le Burundi traditionnel, il y avait un petit tambour qui s'appelait Kalienda. En fait, ça faisait office de notre drapeau national dans la monarchie, au temps de la monarchie.
Comment est-ce qu'on devient tambourinaire ?
On devient tambourinaire au Burundi. Dans nos jours, c'est n'importe qui peut le faire s'il est intéressé, s'il a des aptitudes physiques. Mais dans le temps, ça se jouait au sein des castes. Il y avait une caste qui était réservée au tambour. De nos jours, avec la modernité, le tambour se joue partout. Le tambour se joue quand il y a des cérémonies de mariage. Sinon que dans le temps, ça ne se jouait que devant Sa Majesté, devant le roi.
Mais à partir de quel moment est-ce que le tambour est rentré dans l'histoire du Burundi et quelle est la légende du tambour ?
On dit que c'est le roi Ntare Rushyashyambara Ntamara, tout premier roi, qui a fait rentrer le tambour au Burundi. La monarchie et le tambour sont entrés au Burundi à la même date.
Pourquoi est-ce que vous pensez que le tambour fascine autant l'Occident ?
Tout le tambour est passé. J'ai vu les gens enthousiasmés. Et figurez-vous que le tambour fait, à partir de l'année 2014, le tambour fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, le tambour burundais.
Et pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont les tambours de la paix ?
Ce sont les tambours de la paix et parce que tambour symbolise le pouvoir, c'est vrai, mais un pouvoir qui incarne la paix. Le tambour résonnait quand le roi venait auprès des populations. Le tambour résonnait quand il y avait la cérémonie des semences annuelles. Quand il y a des événements malheureux, on ne joue pas de tambour. Quand il y a un deuil, le tambour ne résonne pas. Par exemple, quand vous êtes tambourinaire et dans votre famille, il y a un décès, même si vous avez un spectacle, ce jour-là, vous dites... Je suis désolé.
Hormis les tambours, qu'est-ce qui caractérise la culture du Burundi, Daniel ?
Alors, dans le Burundi ancien, la nature conserve un caractère sacré. Les arbres ont occupé une place centrale, tant par leur signification culturelle qu'en tant qu'arbre témoin de l'architecture des cours royales. Les cours royales se caractérisaient par la présence d'arbres dits divins. Et le jour de l'intronisation du roi, il fallait planter 3 arbres. Le bois des arbres a très longtemps constitué une part importante du patrimoine culturel du Burundi. De la vannerie aux instruments de musique, il est regrettable qu'aujourd'hui, ce patrimoine culturel, avec la modernité et la déforestation des forêts, se délite. Et de la même manière, la vache est aussi un animal sacré au Burundi, comme nous l'expliquera Pacifique.
Et que pensent les jeunes de cette tradition ?
Les tambours restent au cœur de la culture du Burundi, comme l'explique ce jeune enseignant pacifique que j'ai rencontré au cours de cette soirée. Il a grandi à la campagne et le roulement des tambourinaires ont bercé son enfance.
La culture burundaise reste dans mes veines, reste dans mon sang. Ça me reste des souvenirs. Si j'entends par exemple qu'il y a des tambours des tambourinaires qui vont jouer dans une ville ou dans une autre, autrement dit, je suis le premier à participer parce que ça reste à moi, ça m'attire davantage. Et puis je vais vivre le Burundi, je vais vivre le Burundi de la paix, vu que les tambourinaires témoignent ou chantent la paix, donc ça m'attire davantage, tout en espérant que ça peut changer aussi.
Est-ce qu'enfant, vous avez vu les tambourinaires au Burundi ?
Écoute, je vivais avec les tambourinaires, mes amis étaient tambourinaires. J'admirais beaucoup de rencontrer, par exemple, il y a un vieux tambourinaire qui a gardé la tradition, qui m'a expliqué, qui m'a montré. Il m'a raconté des interdits par rapport au tambour, comment le tambour était né. Le tambour au Burundi, c'est l'ensemble de la culture, ça représente tout pour moi. C'est l'image symbolique du Burundi parce que les chansons, par exemple, c'était des chansons en rapport avec la culture burundaise. Et si on regardait comment ils dansent, ils dansaient avec la houe, comme le symbole de la houe, c'est-à-dire le petit paysan qui est en train de labourer le champ. Ça veut dire que c'est symbolique par rapport à la culture burundaise parce qu'on vit de l'agriculture en grande majorité, plus de 80%. Et puis si on voit le symbole de la houe, ça veut dire que ça symbolise le peuple, le paysan.
Est-ce que vous sauriez quelle importance a la vache au Burundi ?
J'ai grandi en entendant que le mouton est sacré, Mais autrement dit, la vache est aussi sacrée parce que on utilise la peau de la vache pour fabriquer le tambour.
J'ai lu qu'elle portait bonheur et que c'était l'une des raisons pour lesquelles on lui portait beaucoup d'affection.
La vache, symboliquement, c'était, à l'époque, c'était une richesse. Même actuellement, pour un petit paysan qui a une vache, c'est autrement dit une personne d'intégrité, une personne de poids. Mais autrement dit, un ménage qui n'avait pas de vache au Burundi n'avait pas de considération.
Ouais, l'héritage culturel du Burundi repose avant tout sur la pratique de l'ancien Burundi. Témoin du passé, les tambours restent donc emblématiques dans cette culture. D'autres éléments naturels comme les arbres, témoins de l'architecture, des cours royales, la vannerie et la vache, symbole de beauté et de bonheur, font partie de ce patrimoine de cet énorme pays, le Burundi. Les Burundais, jeunes et moins jeunes, semblent encore attachés à ces racines et traditions nées avant l'ère coloniale. Merci Daniel.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Ce soir dans La Rose des Vents, une nouvelle chronique, Daniel. Ils sont fous, ces Helvètes. Une chronique un peu décalée, un peu cliché hein, aussi. Concrètement, qu'est-ce que vous allez nous faire ressortir par cette chronique ?
Alors, montrer comment perçoivent des migrants notre société. Si nous trouvons chez les autres certaines habitudes ou comportements parfois bizarres ou étranges, eux aussi restent parfois surpris, voire choqués, par nos manières de penser et de vivre. Cette chronique, c'est prendre vol par des micro-trottoirs, ce que pensent certains migrants venus d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Orient et d'Afrique, installés en Suisse ou de passage, et qui s'interrogent sur nos modes de vie. Des réactions à froid sur ces modes de vie suisses et occidentaux.
Mais alors, quel sujet pensez-vous aborder avec cette chronique ?
Alors, plutôt des sujets de société qui font de manière générale réagir tout le monde, mais qui restent l'apanage d'une pensée propre à l'Occident et qui reflètent une certaine vision de la société ou encore des combats portés par l'égalité, la liberté ou encore notre définition du bien-être. Et nous commencerons par le topless.
Et puis quelques mots sur cette pratique.
Alors un long chapitre sur le topless. La mode des poitrines découvertes et des décolletés plongeants a commencé en Europe au XVe siècle. De la Renaissance au XIXe siècle, exposer ses seins était une marque de prestige dans les sociétés aristocratiques. Les mentalités ont changé sous l'ère victorienne et en 1810, découvrir ses seins devient un délit d'outrage public à la pudeur.
Ah oui.
Un siècle plus tard, le bronzage devient populaire. Naissent les bikinis. Certes, le bronzage n'est pas uniforme en bikini. Et un styliste américain, Rudy Gernreich, lance en 1964 le monokini aux États-Unis. Une mode, certes, mais aussi une manière de dire non à la morale répressive de la société bourgeoise de l'époque.
Alors au fond, si je comprends bien, c'est un peu une pratique qui caractérise des revendications ?
Alors en effet, ce processus s'inscrit globalement dans le mouvement d'émancipation des femmes et de libération cristallisé en mai 68. Encore aujourd'hui, des femmes s'insurgent car une poitrine dénudée est considérée comme indécente, alors que des hommes à la plage, au jardin ou encore en ville peuvent circuler torse nu. Et c'est dans ce cadre qu'est né aux États-Unis le Go Day Topless, un événement annuel qui a lieu le dernier dimanche du mois d'août dans les villes américaines. À l'origine, c'est une association de militantes pour les droits des femmes qui a décidé de mettre en avant cette journée, et des manifestations Topless Day sont prévues dans 30 villes à travers le monde, dont 12 aux USA, comme Los Angeles, Miami et New York. Et en Ukraine, les seins nus restent un signe de protestation. Les femmes restent convaincues que des seins nus valent mieux une banderole pour se faire entendre.
Ouais, on voit l'exemple avec les femmes, par exemple. Et puis au-delà de ces mouvements contestataires, que dire des femmes qui font tomber le haut sur la plage ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une mode ?
Alors oui, phénomène marquant en Europe dans les années 70, marqué par un retour à la pudeur dès les années 80. Aujourd'hui, bien que cette pratique soit encore courante sur les plages espagnoles et croates, tomber le haut au XXIe siècle semble un peu avoir perdu de son charme. Avril 2015, c'est le printemps. On enlève les couches, vivement l'été pour se promener torse nu, voire tout nu. Un samedi matin, je me rends au marché de la Riponne. Bien qu'il fasse encore gris et maussade, il y a foule, j'interpelle des passants et leur demande ce qu'ils pensent du topless. Old and crazy world, that's raging outside. Baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life.
Ça, c'est inaccessible.
Inaccessible, mm-hmm. C'est-à-dire
c'est pour provoquer les gens, alors.
On sait que ça peut provoquer les hommes.
Oui, ça peut provoquer.
Dégueulasse.
Pourquoi ?
La femme doit être pudique. La femme est un bijou. Quelque chose qui... Il doit montrer sa valeur. Pas, on n'est pas une marchandise.
Bon, en tant qu'Africain, je crois qu'on en voit un peu trop, surtout à la télévision. Mais personnellement, je n'ai pas un point de vue tranché. Surtout que chez nous, c'est un peu quelque chose de tabou. Par contre, je peux vous dire que le sein nu en Afrique, ça n'a rien de sexuel. Hein. Donc, on est tellement habitué à voir nos mamans allaiter les bébés. Donc, en Afrique, les seins nus, c'est pas dans le même sens qu'ici.
Moi, je trouve ça moche.
Choqué, non, puisque au départ, dans notre culture, c'est vrai qu'on n'en voit pas trop, mais choqué, ça ne me choque pas, non. Les gens sont, qu'est-ce que je dirais, ils sont un peu plus pudiques en Afrique.
Qu'est-ce que vous entendez par pudeur ?
Par pudeur, on essaie de ne pas trop déranger les autres, si je peux le dire ainsi.
Tout, c'est, elle ne se respecte pas et puis ça me fait mal à l'aise de voir ça. Même je suis une femme.
Voilà. Ça vous rend mal à l'aise ?
Oui.
Mais vous avez le sentiment que c'est un manque de respect vis-à-vis des autres ?
Oui, c'est juste.
Et dans votre pays, est-ce que des femmes montrent leur nudité ?
Non, pas comme ça.
Ça me choque un peu. Il faut cacher l'intimité un peu.
Mais est-ce que vous trouvez bizarre qu'en Europe et en Suisse, les gens aiment montrer leur corps ?
Oui, oui, c'est bizarre, mais en Afrique, ce n'est pas comme ça. En Afrique, une femme ne peut jamais montrer son corps à un autre. Rien que ça fait son mari.
Un gars m'a dit, tes seins pointent vers le ciel. Maintenant j'en profite, ce ne sera pas éternel. Alors tu peux les regarder. Ah que je me sens bien avec mes seins. Ils sont si libertins sans leur soutien.
Puisque tout le monde est déjà développé, mais moi, à mon âge, jamais. Si j'étais même, c'est moi qui commandais, j'allais les mettre en prison.
Il ne faut pas autoriser à faire ça. On n'est pas dans un cabaret.
Voilà, c'est chacun son way, mais je trouve que c'est mieux interdit.
Même si la pratique du topless en Europe varie d'un pays à l'autre, des études montrent que la liberté d'exposer sa poitrine dépend beaucoup du contexte social et religieux. Dans d'autres contrées, comme à Dubaï, se baigner les seins nus est passible d'une amende de 6 mois d'emprisonnement. Et oui, 6 mois d'emprisonnement. Paradoxalement, en Tunisie, le topless est toléré à la piscine et sur certaines plages privées. Et puis en Suisse, ce phénomène existe, mais ne connaît pas le même succès qu'en Espagne ou en Croatie. Ils s'en foutent, ces Helvètes. Merci, Daniel.
Radio Django. Culture.
Dans Cultiver Lausanne, ce soir, on reçoit à nouveau l'association TROC. TROC qui devient des habitués de l'émission et notre source la plus sûre de découvertes musicales. On entend le mot rock dans le titre de l'association, mais vous ne vous cantonnez pas uniquement à ce genre de musique, seulement à un territoire, la musique suisse. Nathan Melet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes chargé de communication de l'association TROC et vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler d'un groupe de rap originaire des Grisons. Il s'appelle Snook. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ?
Alors déjà, c'est un groupe de rap qui font aussi du hip-hop, qui sont... ils chantent en plusieurs langues déjà, ils chantent dans plusieurs langues nationales, même en italien, en romanche, en français, en allemand, en suisse-allemand, et même en hollandais.
Ah oui, un vrai groupe suisse plus le hollandais.
Moi j'allais dire le hollandais, c'est pas vraiment une langue nationale.
Non, pas vraiment.
Vous-même, vous n'êtes pas amateur de rap à la base. Qu'est-ce qui vous a plu chez Snook ?
Moi ce qui m'a le plus... Enfin, je suis pas amateur de rap, mais je trouve qu'il y a un groove qui est bon. Il y a une bonne diversité dans leurs chansons. Il y a des moments un peu roots, il y a des moments un peu plus pop, il y a des moments un peu plus électro dans l'instrumental. Et ça m'a bien plu. Et les quelques fois où ils rappent en français aussi, j'aime bien le texte qu'ils ont.
Comment vous les avez découverts ?
Alors, on les a découverts en faisant de la prospection sur Internet. Ils nous ont ensuite envoyé un album qu'on a écouté, qui nous a plu, et c'est pour ça que je vous le présente ce soir.
Donc on fait de la prospection chez TROC, donc vous vous promenez sur le web à la recherche de musique suisse.
Exactement, on fait des recherches sur les morceaux qui passent déjà sur les radios, on fait des recherches sur... on essaie de faire des découvertes sur les nouveautés aussi.
Du coup, vous parliez du fait qu'ils rappent en plusieurs langues. Est-ce qu'il y a une revendication derrière ce choix, ou vous, ça vous les rend plus proches en tant que public ?
À mon avis, il y a une revendication. J'ai l'impression qu'ils aiment bien l'interculturalité. Et c'est vrai que dans les Grisons, ça doit faire bizarre qu'ils chantent en plusieurs langues, mais ici, ça les rend plus accessibles au reste de la Suisse. Donc.
Et donc, parlez-nous un petit peu du groupe, des rappeurs. Donc, on imagine bien que du coup, ils n'ont pas des guitares sur scène, mais c'est qui ? Ils sont combien ? Qui est sur scène ?
Alors, Snook, déjà, c'est le nom du rappeur principal, qui est le leader du groupe. Ensuite, il y a une chanteuse, et un deuxième rappeur, et un DJ aussi.
Donc, ce ne sont pas des débutants. Hein. Ils ont déjà sorti 4 albums. Du coup, la question un peu taquine, mais à quoi ça leur sert d'être sur une copile de TROC ?
Alors, justement, je vois pas beaucoup d'informations sur eux, sur le net, à part sur leur site et sur les sites d'écoute. Alors, je me dis que ça peut leur faire de la publicité dans le reste de la Suisse, vu qu'on distribue la compile à droite à gauche dès qu'on a un événement, ou bien quand on croise des gens, on aime bien leur donner la compile.
Donc, on en écoute quelques minutes, du coup. La première chanson, la première que vous avez choisie, elle s'appelle « Lingua Materna ».
Tout à fait, c'est la chanson où justement ce côté multilingue est le plus représenté. Il y a même quelques mots en espagnol à certains moments, en plus de tout ce qui a déjà été dit.
Donc ce groupe Snook qu'on écoute tout de suite en extrait de TROC.
Mamma mia, yeah. Mamma mia, oh ma mère, was wär ich, wenn du nicht wärst. Doesn't matter where you come from, along my tell me, Verstehst mich, liebe meine Mutter, Sprache. Verstehst
touch me. Je m'aime parce que c'est ma langue. Fresh touch me. Amo la mia lingua per sempre.
Wo steibet wäre reint, die dobrar lingus konstient, in schnabun diverti meint, es bin jore il da deint, die teis berein qual culio, voll jesser papi giulo, scelza be tu daisch, til dia vaffanculo, ci ves creccia vos rap, lasciara subit la langa, ci es chat con ses rap, e lo fa l'italiana, e per qua e passa tesco in tornado il mondo, ci a tema dell'omne, sono tornato stronzo.
Qui c'è sma lingua materna, e schlingia canera, e son giuve motivana, e una vita eterna, i griff noch de sterno, no spizli viter, o promanisch, Deutsch oder Russland, Schweizer, man schon Kulturen. Das ist Kino Grande. Ich kämpfe für Freier wie der Rio Grande. Ich tocke mit Score, allein Jardine, mich die besten MCs, so Rap-Maschine.
Mamma mia, oh ma mère, was wär ich, wenn du nicht wärst?
Doesn't matter where you come from, along my terminal, Brühe, Burel.
Verstehst mich,
liebe meine Muttersprache.
Verstehst mich,
ich bin, parce que c'est ma langue.
Verstehst mich,
amo la mia lingua per sempre. And I ain't my lingua materna.
Meine Mom ist von da, meine Daddy von dort. Es ist okay, wie es ist, bin gefühlt voller Glück, denn ich lehre meine Sprache. Es ist das, was ich brauche, mein Herz schlägt. Ich fühle es, ja, das Wort zeichne mich aus.
Esta es mi lingua, viva l'España. Mi lingua nativa, fluida. La hablo ya, por la mañana. Con mi mamma, con mi papà. Hablo l'italiano, con mis amigos alemán.
Ich stehe ja mit der Sprache am Start. Kann sagen, was ich will, in Form von Rhymes und Bars. Rede, wenn ich denk und denke, wenn ich red. Ehre die Sprache bei jedem Satz, wo ich frage.
Die Nederlandse bars voor de fucking frit. Rock for rocket shit. Nederlander in de bergen, anders niks. Zo'n kwetje staat duurtje in mestes niet. Raps, iets beats in ballade, zal die die in mijn nazen.
Mamma mia, oh ma mer. Was wär ich, wenn du nicht wärst?
Doesn't matter where you come from. Along my terminal, Brühe, Burel.
Verstehst mich,
liebe meine Muttersprache.
Verstehst mich,
ich bin, parce que c'est ma langue.
Verstehst mich,
amo la mia lingua per sempre. And I ain't my lingua materna.
Jodel und Montagne durch die Täler ins Land. Ohne Punkt und Komma, Riemen konstant. Romanschnitt und Dächt, es kommt schon allerhand. Moni Jean, Kitty Storber, mit klarem Verstand. Lass mich heute überlegen, das heißt Multikultur. Nichts wär so bitter, massi Strugen wie Kur. Boy, Budi später, ich versuch's, bin nur stur. Farb ohne Beretta, Bolle, Bougel, Futur.
Formatage initial, dans l'entourage bilingual. Moi j'utilise mon langage pour qu'il décapte mon ciblage. Pour qu'il ôte les voiles de ceux qui violent nos droits, déforment notre héritage et assassinent nos sages. Donc t'étonnes pas. J'ai la rage entre les phrases que je décharge. Mes vocables Babylone en découpage entre mes syllabes. Mon rap il vient d'en bas, mon drapeau est mondial. Et je la fermerai que quand leur règne s'effondra.
Mamma mia, oh ma mère. Was wär ich, wenn du nicht wärst?
Doesn't matter where you come from.
Along maternelle, pour lui et pour elle.
Verstehst mich, liebe meine Muttersprache.
Verstehst mich,
ich bin, parce que c'est ma langue.
Verstehst mich,
amo la mia lingua per sempre. And I ain't my lingua materna.
Donc cette chanson, c'est un peu comme un jeu de pistes pour essayer de démêler les langues les unes des autres. On entend des petits mots d'espagnol, tout d'un coup on attend d'entendre le français, c'est assez chouette, moi ça me plaît bien. La seconde chanson que vous avez amenée avec vous, son titre c'est...
Rich or Power.
Rich or Power, pourquoi celle-là et pas une autre?
Alors c'est le nom de l'album déjà, donc je pense que c'est leur chanson phare. Et puis, c'est aussi, je pense, une critique de la société, des riches au pouvoir, hein, de ce que j'ai pu comprendre, parce que c'est pas ma langue maternelle.
Le romanche, c'est pas ta langue maternelle?
Non.
Ich kann dreckige Viertel, ist es schlimmer als da.
Ich wählt Alba da, Papa, Mama, Glocke.
Und trotz Heilzer mehr haben sie Geld zum Shoppen.
In der Bitchen zu, Albi Fossa mies.
Er gibt einen Fick auf die Leute, hat keine Chance in der Schweiz.
Ich präzise Skoba, Pinze, Skor, Violenza.
In der Schule ist es hart, immer kiffen und schwänzen.
In uns ein Zerrajun, nicht so weit im Perjun.
Für eine frühe Entlassung sieht der Richter keinen Grund.
Finik und am Mund, du hast eine Weihe an Wahl.
Nach dem Hochmut kommt der freie Fall.
Alles blank und Drogen sind eine Steuer an Not.
Er schreit in die Nacht raus.
Fühlst mich Gott? Esa Glock, der Set, Daniel Wiedel Front.
Ein Schuss im Kopf, auf das der Friede kommt.
Ich weiß es, je te schreit schon bauen. Vater, wie te war der Jahr. Ich weiß es, je te schreit schon bauen.
c'était assez chouette d'entendre un second extrait. On voit qu'il y a une belle diversité. On a pu entendre la chanteuse du coup là sur ce morceau-là. Mm-hmm. Donc Snook, vous aimeriez bien qu'il soit sur la prochaine compile, c'est ça ?
C'est ça, qui sortira en septembre, mais on doit encore leur demander.
Pour des petites questions administratives à régler. Hein.
Tout à fait.
Mais avant ça, il y a une autre actualité troc, c'est la compile de ce semestre, donc qui vient de sortir, qui sort en ce moment. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors, c'est une compile aussi très diversifiée. Bon, il y a beaucoup d'artistes romans. On a aussi du métal, de la pop, de la surf pop même. Donc c'est... Moi, elle me plaît beaucoup. On a aussi beaucoup d'artistes qu'on attend beaucoup déjà à la radio. Et puis, sinon, on les distribue à un millier d'exemplaires chaque semestre. On essaie d'être présent dans les festivals pour les distribuer.
Et donc, si, chers auditeurs, vous en cherchez une, vous pouvez passer en prendre une à Pôle Sud. On en a une petite réserve pour l'instant sous la main. Et sinon, effectivement, dans les différents événements musicaux à venir, grâce à l'association Troc. Et sur votre site internet, on peut aussi entendre les chansons de la compile ?
Alors, normalement, on peut les entendre sur MX3. On fait une playlist MX3. Donc, y a même les chansons des nouveaux Top Troc, des nouveaux meilleurs artistes qu'on reçoit.
Donc on peut y retourner régulièrement et il y a toujours des nouveautés.
Exactement.
Merci beaucoup Nathan Melay d'être venu nous parler ce soir de cette nouvelle découverte musicale, hein, on peut l'appeler comme ça. Il s'agissait de Snook ce soir, une compilation que vous pouvez retrouver donc sur votre site troc.ch. Vous pouvez également y découvrir de nombreux autres artistes ou l'univers de Troc. Et ce soir justement on vous parlait de Snook avec ces deux extraits. Vous pouvez retrouver tous les autres sur leur site www.snook-rap.ch. Vous pouvez également télécharger gratuitement l'album Rich au Pauvre qu'on a écouté ce soir. Voilà, tous les liens seront mis sur notre site internet. Merci beaucoup Nathan Melay encore une fois.
Merci à vous et bonne soirée.
Et on vous retrouve dans deux mois pour parler de la prochaine compilation. Merci Pascaline pour cette chronique découverte.
C'était un plaisir.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.
Les mardis de Stéphane Venanzi, c'est des coups de cœur, des coups de griffe, l'un n'empêche pas l'autre hein, parfois, à propos d'événements culturels divers et variés en région lausannoise. Qui n'a jamais vu de photographie de Werner Bischoff ? Et pourtant, une exposition lui est consacrée jusqu'au 1er mai au musée de l'Élysée. La mise en lumière de deux aspects nettement moins connus de son travail vaut assurément la visite, comme nous l'explique cette semaine Stéphane dans sa chronique.
Mardi de Stéphane Venanzi.
L'exposition que le musée de l'Élysée consacre à Werner Bischoff jusqu'au 1er mai est intéressante à plus d'un titre. Pas tellement pour son éclairage rudimentaire qui nous inflige 2 à 3 cm d'ombre en haut de chaque image, mais parce que, principalement, elle offre à voir, outre donc 2 à 3 cm d'ombre, une paire d'aspects méconnus de l'œuvre du photographe suisse. Primo, son utilisation de la couleur lors de sa visite des États-Unis, qu'on pourrait rapprocher de celle contemporaine de Saul Leiter. Sans compter qu'à l'occasion de ce voyage, ayant peut-être immédiatement ou inconsciemment saisi le caractère foncièrement déshumanisé de la société capitaliste américaine, il délaisse souvent son sujet de prédilection, les hommes, ou les représente alors comme prisonniers de leur environnement, tel cet ouvrier de construction new-yorkais qui paraît empêtré dans un inextricable fouillis de tiges d'acier. Pour se focaliser sur la voiture et souligner la place centrale qu'elle occupe tant dans l'imaginaire que le quotidien du pays. Riding along in my automobile. My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. With no particular place to go. Riding along in my automobile. I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere. She leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. deux yeux, ses planches contact, qui permettent ainsi de découvrir, outre de quelle manière il a recadré certaines de ses images les plus célèbres, des dizaines de clichés en revanche complètement inconnus. Catalogue autrement plus vaste que l'éternelle même série de photos reproduites un peu partout depuis le milieu des années 50. Quant au reste de l'exposition, elle consiste en de beaux tirages d'époque, de taille souvent réduite, reparcourant de manière antéchronologique, continent après continent, de l'Amérique du Sud de la première moitié des années 50 à l'Europe en ruine de l'après-guerre, le parcours humain et stylistique du photographe. La visite se terminant par le travail formel effectué en Suisse, travail qu'un beau livre publié à cette occasion et intitulé Helvetica documente. À la semaine prochaine.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
Cinq sujets au sommaire de ce grand direct, le journal roman de l'écologie politique, la culture du Burundi, le topless et les nouveautés musicales de Troc. Et puis on n'oublie pas à l'instant les mardis de Stéphane Benanzi. C'est le programme que nous vous proposions pour ce mardi 5 avril sur Radio Django. Toutes ces chroniques et tous ces sujets sont à retrouver sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre d'Enrico Camponovo, voilà j'y arrive, et nous jetterons un coup d'œil à un groupe masculin. Masculiniste, si je peux dire. On parlait de féministe il y a quelques semaines. Ce sera l'occasion de voir ce qu'il se fait dans le milieu de ces messieurs. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau Grand Direct. Émission en direct et en public de Pôle Sud, comme chaque semaine. Belle suite de soirée à l'écoute de Radio Django. Il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.
Till I